Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école Sainte-Croix.
Hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc on commence une nouvelle émission.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Castel. Aujourd'hui, nous allons aborder différents thèmes comme celui des voitures électriques avec Émile ou encore les meilleurs films 2025 avec Gabin Fouillé. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'émission.
Lamborghini, Ferrari,
Bugatti,
Taxi,
Maserati,
Max & Lorraine,
MW Motors,
Aston Martin,
Audi,
BMW,
vroom vroom.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des voitures électriques. Bonne écoute. Les voitures électriques, solution d'avenir ou transition incomplète?
La voiture électrique est-elle vraiment écologique?
La voiture électrique est souvent présentée comme une réponse efficace au problème de la pollution et du réchauffement climatique. En circulation, elle n'émet pas de gaz à effet de serre, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air, notamment en ville. Son fonctionnement silencieux réduit également la pollution sonore. Pour beaucoup, rouler électrique symbolise un engagement en faveur de l'environnement et d'un mode de vie plus responsable. Dans un contexte où les politiques écologiques se renforcent, elle apparaît comme une alternative crédible aux moteurs thermiques.
Quelles sont les limites et les contradictions de cette technologie?
Malgré ses avantages, les voitures électriques soulèvent plusieurs questions. La fabrication des batteries nécessite des matières premières rares comme le lithium ou le cobalt, dont l'extraction a un impact environnemental important. De plus, l'électricité utilisée pour recharger ces véhicules n'est pas toujours produite à partir d'énergies renouvelables, ce qui relativise leur bilan écologique. À cela s'ajoutent les contraintes pratiques à un prix d'achat élevé, une autonomie parfois limitée, et un réseau de bornes de recharge encore insuffisant, notamment en zone rurale.
La voiture électrique suffit-elle à transformer notre mobilité?
Les progrès technologiques sont rapides et prometteurs, les batteries gagnent en performance, les infrastructures de recharge se développent et les coûts tendent à diminuer. Toutefois, la voiture électrique ne peut être considérée comme une solution unique. La transition vers une mobilité durable nécessite aussi de repenser nos habitudes, utiliser davantage les transports en commun, encourager le covoiturage et privilégier les modes de déplacement doux. L'électricité représente donc une étape importante, mais elle s'inscrit dans un changement plus global de notre manière de nous déplacer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine chronique.
Place à l'émotion, à la folie des grands matchs, à la magie collective et individuelle et aux révélations de jeunes talents. Mesdames et messieurs, place au sport, la plus grande invention de l'histoire de l'humanité.
Du ballon rond à la natation ou au surf, il est l'heure de plonger dans ce monde fabuleux qu'est celui du...
Bonjour à toutes et à toutes. Pour cette première chronique, je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2028 qui auront lieu à Los Angeles aux États-Unis.
Comment ça se passe les Jeux Olympiques?
Les Jeux Olympiques sont une grande compétition sportive. Ils ont lieu tous les 4 ans et réunissent des sportifs de nombreux pays. En 2028, ce seront les Jeux Olympiques d'été. Pendant ces Jeux, les athlètes vont participer à différents sports comme l'athlétisme, la natation, le football, le basketball ou encore le tennis. Les sportifs s'entraînent pendant longtemps pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques et représenter leur pays.
Où se passent les JO cette année et sont-ils importants?
Los Angeles est une grande ville américaine. Elle est connue dans le monde entier, notamment pour le cinéma et le sport. Ce n'est pas la première fois que cette ville accueille les Jeux Olympiques. Elle les a déjà organisés 2 fois, en 1932 et en 1984. En 2028, ce sera donc la 3e fois. Les Jeux Olympiques sont importants car ils permettent de rassembler les pays autour du sport. Même si les sportifs sont en compétition, ils doivent respecter les règles et les autres participants. Les valeurs des Jeux Olympiques sont le respect et le fair play et l'effort.
Est-ce que les Jeux Olympiques sont connus dans le monde entier?
Beaucoup de personnes dans le monde vont regarder les Jeux Olympiques à la télé ou sur Internet. La cérémonie d'ouverture et de clôture sont aussi des moments importants. Elle marque le début et la fin des Jeux. Pour finir, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 sont un événement très attendu. Ils vont permettre de réunir des sportifs du monde entier et de partager un moment autour du sport.
D'accord, merci beaucoup.
Merci de m'avoir écouté et à tout de suite sur Radio Castel. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
De la Révolution française. Alors, tout d'abord, la Révolution française a eu lieu en 1789.
Mais Mathis, c'est quoi ça?
Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement marquant du 26 décembre 1994, la prise d'otage Marignane. Je vais vous raconter cette folle histoire, celle de la prise d'otage du vol Air France 8969. On est le 24 décembre 1994 en Algérie. Un avion d'Air France qui devait relier Alger à Paris est prêt à décoller. Quatre hommes armés montent à bord en se faisant passer pour des policiers. Une fois dans l'avion, ils prennent le contrôle et retiennent 229 passagers et membres d'équipage en otage.
Mais que voulaient-ils ?
Ils annoncent qu'ils veulent la libération de prisonniers islamistes, mais leur but final était de s'écraser sur Paris. Alors, l'avion reste bloqué à Alger pendant 10 heures. Les terroristes exécutent plusieurs personnes pour mettre la pression sur les autorités.
Mais pour quoi faire ?
Eh bien, pour décoller, il leur fallait du carburant. Après des heures de négociations, les autorités algériennes ont fini par autoriser le ravitaillement. L'avion a donc été ravitaillé avant de quitter Alger. Ravitaillé, mais pas assez pour atteindre Paris. Les pilotes ont dû donc se poser à Marignane, l'aéroport français le plus proche, capable d'accueillir un Airbus A300 en urgence.
Et cela était-il prévu ?
Oui, tout à fait prévu. L'avion est posé à Marseille.
Donc il faut ravitailler l'avion ?
Oui, mais cette fois tout ne se passe pas comme prévu pour les terroristes, car le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, intervient, car pendant que l'avion était en vol, le GIGN a eu le temps de se déployer à l'aéroport, étudier la configuration de l'Airbus et préparer un assaut complet répété sur les portes d'un même appareil et de se répartir en équipe. L'appareil roule jusqu'à un endroit isolé de l'aéroport. Le GIGN se rapproche discrètement, caché derrière des véhicules et des escaliers mobiles. Les terroristes, eux, pensent pouvoir redécoller pour Paris. C'est précisément ce moment que le GIGN attend pour donner l'assaut. Là, les escaliers mobiles approchent l'avion.
Non, les terroristes n'ont pas le temps de le voir arriver.
Non, car ils sont discrets et surtout les terroristes n'y prêtaient pas attention. Donc le GIGN fait exploser les portes. Plusieurs équipes se répartissent à l'arrière, sur les côtés. Puis, ils pénètrent pendant une vingtaine de minutes un échange de balles constant durant lequel un des deux pilotes menacés saute du cockpit et se casse la jambe. Tandis que dans l'avion, les quatre terroristes sont neutralisés et tués.
Et des passagers ont été tués ou blessés ?
Eh bien non, c'est ce qui a marqué cette prise d'otage. Aucun blessé, à part le pilote, et quelques civils sont morts à Alger, mais sinon, rien. Sur les 229 passagers, c'est incroyable. Mais l'on doit cela au courage et à la précision des hommes du GIGN. Sur ce, c'est la fin de cette histoire et de cette chronique. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Émile.
Guerre 39-45. Prise de la Bastille.
Révolution française.
Découvrez comment notre monde a été façonné. Voici la rubrique Histoire.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand personnage historique, Jules César. Jules César, héros de Rome ou menace pour la République ?
Jules César était-il un grand chef ou un simple conquérant ambitieux ?
Jules César est avant tout connu comme chef militaire exceptionnel. Ses conquêtes, notamment en Gaule, ont considérablement agrandi le territoire romain et renforcé la puissance de Rome. Stratège brillant, il savait motiver ses soldats et utiliser ses victoires pour asseoir sa renommée. Grâce à ses succès militaires, César devient une figure populaire auprès du peuple romain, qui voit en lui un protecteur et un homme capable d'apporter la gloire à Rome. Mais César n'était pas seulement un homme de guerre, il était aussi un habile orateur et un fin politique, conscient de l'importance de son image. Ses écrits, comme la guerre des Gaules, lui permettent de contrôler le récit de ses exploits et de renforcer sa popularité à Rome.
Pourquoi Jules César inquiète-t-il les défenseurs de la République ?
La montée en puissance de Jules César suscite rapidement la méfiance du Sénat en franchissant le Rubicon avec son armée en 49 avant Jésus-Christ. Il enfreint les lois de la République et provoque une guerre civile. Ce geste symbolise sa volonté de conserver le pouvoir coûte que coûte. Pour de nombreux sénateurs, César incarne une menace pour les institutions républicaines fondées sur le partage du pouvoir. Devenant dictateur à vie, Jules César concentre entre ses mains des pouvoirs exceptionnels. Bien qu'il mette en place certaines réformes utiles, comme la redistribution des terres ou la réforme du calendrier, son autorité grandissante alimente la peur d'un retour à la monarchie, un régime honni par les Romains. Sa mort fait-elle de Jules César un tyran ou un personnage légendaire ?
Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César est assassiné par un groupe de sénateurs qui prétendent vouloir sauver la République. Cependant, sa mort ne rétablit pas la liberté politique espérée. Au contraire, elle plonge Rome dans une nouvelle période de troubles et de guerre civile. Avec le recul, Jules César apparaît comme une figure complexe, à la fois réformateur, stratège de génie et homme avide de pouvoir. Il marque profondément l'histoire romaine. Sa disparition ouvre la voie à l'Empire dirigé par son fils adoptif, Auguste. Ainsi, Jules César reste un personnage incontournable à la frontière entre le héros admiré et le dirigeant redouté. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine fois. I got this feeling inside.
Je suis ton animateur. C'est la rubrique cinéma.
Rebonjour à tous. Pour cette deuxième chronique, je vais vous parler des meilleurs films sortis en 2025 aux États-Unis.
Quel est le cinquième film et le quatrième ?
Le cinquième est Marty Suprême. Ce film raconte le parcours d'un personnage ambitieux qui veut réussir à tout prix. Il fait face à des obstacles et doit apprendre à rester honnête avec lui-même. Le film est motivant et montre que la réussite demande des efforts et des sacrifices. Et le quatrième est The Plague. Dans ce film, une maladie se répand et met la population en danger. Les personnages doivent rester calmes et solidaires pour s'en sortir. L'ambiance est stressante, mais le film montre surtout l'importance de l'entraide et du courage face à la peur.
Quels sont les films et en troisième position et le deuxième ?
Le troisième meilleur film sorti en 2025 aux États-Unis est The Secret Agent. C'est un film d'espionnage avec des missions secrètes, des mensonges et beaucoup de tensions. Le héros doit faire attention à qui il fait confiance. Le film est rythmé, mystérieux et donne souvent envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et le deuxième est Sinners. Ce film suit des personnages qui font de mauvais choix dans leur vie et qui doivent en payer les conséquences. On y parle de culpabilité, de pardon et de seconde chance. Le film est sombre, parfois choquant, mais il montre que chacun peut essayer de devenir le meilleur.
Et pour finir, quel a été le meilleur film sorti en 2025 aux États-Unis ?
Le meilleur film sorti en 2025 aux États-Unis est One Battle After Another. C'est l'histoire de personnes qui doivent se battre pour défendre leurs idées et survivre dans un monde compliqué. Le film parle de courage, de choix difficiles et de ce que l'on est prêt à faire pour ce qui est juste. L'ambiance est sérieuse et intense, mais le film fait réfléchir sur la vie et les relations entre les gens. Voilà pour moi, c'était tout pour aujourd'hui. Tout de suite, une chronique sur le Groenland et Trump. À la prochaine.
Et maintenant, les news de la semaine.
Oui, mais c'est quoi les news ?
C'est, les nouvelles de la semaine.
Oui, mais quoi comme nouvelles ?
Reste avec moi et tu verras.
À présent, je vais vous parler d'actualité avec Trump et le Groenland. Nous allons aborder trois grandes questions. Tout d'abord, nous allons nous poser une première question.
Pourquoi veut-il le Groenland ?
Les motivations de Donald Trump sont multiples et elles reviennent régulièrement dans ses déclarations publiques. Les analyses des médias confirment trois grandes raisons principales. La première, Trump affirme que le Groenland est indispensable pour la sécurité nationale des États-Unis. Selon ses déclarations, le Danemark ne serait pas capable de protéger efficacement l'île alors que la Russie et la Chine renforcent leur présence militaire dans l'Arctique. L'île permet aux États-Unis de surveiller les routes maritimes arctiques, contrôler un espace aérien stratégique, renforcer la base américaine. La deuxième est simple. Le Groenland possède des réserves importantes, minerais rares, pétrole, gaz, terres rares, indispensables aux technologies modernes. Plusieurs analyses montrent que Trump s'intéresse à ces ressources pour renforcer l'indépendance énergétique et industrielle des États-Unis. Et enfin, la troisième raison, un peu plus compliquée, depuis 2019, Trump voit le Groenland comme un terrain de compétition directe avec les grandes puissances. Il considère que l'île pourrait devenir un point d'appui stratégique dans la rivalité avec Moscou et Pékin. Voilà pourquoi Trump veut absolument le Groenland.
Oui, mais quand dit l'Europe et surtout le Danemark ?
Les dirigeants européens, notamment le Danemark, ont rappelé que le Groenland est un territoire autonome, il n'appartient pas aux États-Unis et il n'est pas un bien immobilier que l'on peut acheter. Plusieurs responsables européens ont même qualifié l'idée d'absurde ou d'inappropriée. L'Union européenne a exprimé un soutien clair au Danemark, qui est membre de l'Union européenne. Mais l'Europe s'inquiète aussi de la montée en tension transatlantique. Les menaces de Trump sur des droits de douane contre l'UE ont été très mal reçues. Trump sur des droits de douane contre l'UE. Plusieurs pays européens ont appelé au calme et au dialogue, mais reste ferme sur le quai que le Groenland n'est pas négociable.
On sait pourquoi il le veut et l'avis de l'Europe, mais il manque quelque chose. Comment va-t-il faire pour l'obtenir ?
Eh bien, par n'importe quel moyen, bien sûr, tous illégaux. Le plus souvent, il a dit que les États-Unis pourraient acheter le Groenland au Danemark, comme il l'avait fait pour l'Alaska avec la Russie en 1867. Le Danemark a bien sûr immédiatement refusé, car le Groenland n'est pas à vendre. Sa deuxième stratégie consiste à financer des infrastructures, développer des bases militaires, investir dans les ressources naturelles du Groenland. Bref, l'objectif serait de renforcer la dépense économique du Groenland envers les États-Unis sans passer par un achat direct.
Et il a d'autres idées comme celle-ci ?
Eh bien oui, plein d'autres, mais nous allons en voir une dernière, la pire mais la plus efficace. Renforcer la présence militaire américaine. Les États-Unis possèdent déjà une base stratégique à Thule. Trump a laissé entendre qu'il voulait agrandir cette présence, renforcer les accords militaires et faire du Groenland un point clé de la défense américaine dans l'Arctique. Cela ne donne pas
la propriété du territoire, mais augmente l'influence américaine. Tout cela pour dire que Trump veut le Groenland, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est la fin de cette chronique sur l'actualité du monde. J'espère qu'elle vous aura plu et merci de m'avoir écouté.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Du miroir. From Mexico, dans des gars de la Vegas, c'est comme Zorro. Scule dans les couloirs, les p***eurs. Cha cha cha, Miss cha cha cha, Miss cha 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 cha, killing the star.
Ça y'a nous, y'a moi et. Vert sur vert de. Libre. Libre.
Que reste-t-il de notre histoire? Deux ombres qui se séparent sans même un regard. Des sanglots sur un répondeur, des fleurs séchées dans un classeur. La nuit glacée qui dessine mes rêves à l'encre.
Les chroniques, c'est bien, mais plus, c'est mieux.
Restez avec nous sur Radio Castel 88.1, le meilleur de l'info et de la musique sur Château-Giron.
Jusqu'à 18h30.
Bonjour à tous. En ce lundi de 19, en ce mois de janvier, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Désolé pour le petit problème technique. Au programme d'aujourd'hui, de l'info, de la bonne humeur et de belles découvertes pour bien commencer la semaine. Installez-vous confortablement, l'émission commence maintenant.
Marius Jacob, le vrai Arsène Lupin.
Qu'allons-nous lire ce soir? Regardez un peu, intéressant. Un livre sur la géographie? Non. Sur l'histoire? Peut-être. Sur le MC? Je sais pas. Tiens, lisons un livre d'histoire, c'est la rubrique histoire.
Marius Jacob, le vrai Arsène Lupin.
Bonjour les amis, Arsène Lupin, le gentleman, cambrioleur, voleur, élégant et insaisissable.
Un personnage de fiction?
Pas tout à fait, car derrière la plume de Maurice Leblanc se cache...
un homme bien réel, Marius Jacob.
Mais c'était ma phrase ça.
À la belle époque...
Jacob est un anarchiste convaincu, révolté par les injustices sociales... Il ne vole pas par cupidité, mais par ses convictions.
Ses cibles?
Les juges, les militaires, les religieux, symboles d'un ordre qui juge injuste. Les pauvres, les artistes, les enseignants, eux, sont épargnés.
Ouf, on est épargnés.
En 1899, à seulement 20 ans, il entre dans la légende avec un coup spectaculaire à Marseille. Déguisé en policier, il dévalise le monde piété, avant de disparaître sans laisser de traces. Le lendemain, le 1er avril...
Ça ne s'invente pas et ce n'est pas une farce.
La presse s'emballe et la police est ridiculisée. Et plus tard, arrêté, Jacob transformera son procès de 1905 en une véritable tribune politique. Insolent, brillant, provocateur...
Il captive l'opinion.
Condamné, il est envoyé au bagne de Cayenne. Dans la salle d'audience, un homme observe, Maurice Leblanc. Quelques mois plus tard, naît Arsène Lupin. Libéré après 20 ans de bagne, Marius Jacob mène une vie simple, loin des vols, des projecteurs. Il choisit de mettre fin à ses jours en 1954.
Oh bah non !
Marius Jacob n'était pas un héros, mais il fut un rebelle, un esprit libre, et sans doute le véritable Arsène Lupin.
Petite anecdote.
Au président du tribunal, qui un jour se perd un peu dans tous les dossiers, Jacob déclare avec un zeste d'insolence.
Matinée d'ironie.
Monsieur le président, vous faites erreur. Pour envoyer les gens au bagne ou à l'échafaud, vous êtes très compétent, je n'en doute pas. Mais en manière de cambriolage, vous n'entendez rien. Vous ne m'apprendrez pas mon métier. Et au même président qui un jour lui demande de se découvrir, il rétorque. Pourquoi? Vous êtes assis et couvert. Lorsqu'on lui reproche d'avoir volé un mouchoir d'une dame, il réplique. C'était pour pleurer sur les misères du monde.
Mais il a réponse à tout.
Mais chez lui, il y a une forme d'élégance qui plaît. Un jour, alors qu'il croit cambrioler à la maison d'un officier de marine appelé Julien Viaud, il se rend compte qu'il s'agit du domicile du célèbre écrivain Pierre Loti, dont il a lu avec délice les récits de voyage. Du coup, il va remettre tous les objets dérobés chez lui et il va partir en laissant un petit mot. « Pardonnez-moi, ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à celui qui vit de sa plume. Tout travers mérite un salaire, ici joint 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. »
Ah, c'est quand même la classe.
Et pour son chien? Eh ben, et pour son chien, pour lequel un jour il demandera une carte d'électeur.
Motif?
Mon chien n'a jamais menti, il n'a jamais été ivre. Il n'y a aucun électeur dans le département dont on peut dire autant.
Excellent.
Et on se retrouve tout à l'heure pour une chronique sur le thème de la science-fiction. À tout à l'heure.
Acteur, youtubeur, artiste, ça te parle?
Bah oui, bien sûr.
Ça tombe bien, c'est des célébrités dont on va parler aujourd'hui.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des artistes les plus populaires et influentes de sa génération. Avec sa voix unique, ses clips originaux et son style inimitable, elle a su captiver des millions de fans dans le monde entier.
Qui est-elle?
Billie Eilish, ou Billie Pirate Bird O'Connell, est une chanteuse américaine d'aujourd'hui. 24 ans, née à Los Angeles, aux États-Unis, bien évidemment, en 2001. Elle a un frère, Phineas, de 4 ans son aîné. Dès son enfance, elle baigne dans la musique grâce à ses parents, tous deux artistes et acteurs. Elle fait l'école à la maison. Avec son frère Phineas, qui devient son producteur et co-auteur, elle commence à créer ses premières chansons chez elle. Son premier succès mondial arrive avec Ocean Eyes, qu'elle poste sur un site de musique à seulement 14 ans. La chanson devient rapidement virale et elle attire l'attention des maisons de disques. Le titre lance sa carrière internationale.
Quel est son univers musical ?
Billie Eilish mélange plusieurs genres, pop, électro et R&B. Ses chansons abordent des thèmes variés, anxiété, relation, image de soi ou société. Son style sombre, intimiste et parfois mystérieux se démarque totalement des standards de la pop traditionnelle. Dans ses chansons, Billie évoque ses problèmes mentaux, ses pensées suicidaires et sa façon de penser. Billie et son frère, Phineas, sont fusionnels. Ils travaillent tout le temps ensemble, chez elle, ce qui leur permet de conserver un style de musique personnel et complètement authentique. Elle est aussi connue pour ses clips originaux et son look unique. Vêtements amples, couleurs fluo, cheveux souvent colorés et accessoires surprenants. Ce style fait passer de son univers et de son identité artistique. Elle a sorti 3 albums et a rapidement accumulé les succès et les récompenses. Son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go a été un énorme hit mondial. Elle a remporté 9 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année et du meilleur nouvel artiste, ainsi que 2 Oscars pour la musique la plus originale de l'année et la chanson de James Bond. Ses chansons sont écoutées par des millions de fans sur Spotify, YouTube et TikTok, ce qui fait d'elle une star planétaire dès son enfance. Bref, vous n'avez pas pu passer à côté d'elle.
Quels sont ses engagements ?
Billie Eilish ne se limite pas seulement à la musique. Elle utilise sa notoriété pour parler de problèmes de santé mentale, d'environnement et de mode éthique. Elle a inspiré de nombreux jeunes à exprimer leurs émotions, à être eux-mêmes et à ne pas avoir peur de se démarquer. Elle a aussi créé sa propre marque de vêtements nommée Blush. Billie est donc bien plus qu'une chanteuse. C'est une artiste complètement innovante, engagée et inspirante qui montre qu'il est possible de réussir en restant fidèle à soi-même. Et c'est déjà la fin de cette chronique sur Billie Eilish. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez un peu plus sur cet artiste exceptionnel. Merci de m'avoir suivi et je vous laisse avec sa chanson Birds of the Feather.
Thank you.
Prenez votre pop-corn, votre boisson, installez-vous confortablement et laissez place à la rubrique ciné.
Excusez-nous pour ce nouveau petit problème technique, mais allez, c'est parti. Comme tout univers de fiction, Harry Potter a ce qu'on appelle un canon. L'ensemble des faits, des personnages, des événements et des lieux considérés comme authentiques.
Ah ok, c'est ça.
Mais cet univers est entouré d'un autre plus vaste créé par les fans, le headcanon. Toutes les idées et les théories qui ne contredisent pas le canon, des idées particulièrement aimées et populaires. À tel point que certains fans les intègrent même dans leur propre univers Harry Potter. Je ne m'étais jamais encore intéressée à cet univers des headcanons, mais aujourd'hui...
On va découvrir ça ensemble.
Je les ai classés du meilleur au pire, donc on va au fur et à mesure descendre en qualité. À son mariage, ses frères ont dansé avec Ginny. Il paraît que George a dansé deux fois, une fois pour lui et une fois pour Fred. Il y a beaucoup de headcanons autour de la mort de Fred. C'est totalement crédible que George ait eu cette attention. Ils auraient été tous les deux très fiers de voir Ginny se marier avec Harry.
Le genre de moment qui fait pleurer tout le monde, un mariage.
À la mort de Fred, son aiguille est sortie de l'horloge des Weasley. George la porte en collier depuis.
Vous voulez vraiment que je pleure, vous, franchement?
Pour rappel, les Weasley ont une horloge qui montre en temps réel où ils sont. Et je trouve ça très charmant qu'ils la portent en collier. Quand McGonagall a su que Harry avait un fils qui s'appelait James Sirius, il a coché sa date de son entrée à Poudlard pour prendre sa retraite avant. J'adore cette anecdote, mais j'en changerai juste la fin. Jamais McGonagall ne fuirait un élève turbulent, bien au contraire. Les maraudeurs et même Harry lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Et elle a même été admirable. Mais que le fils d'Harry porte le nom en plus de deux maraudeurs et déjà une réputation avant son arrivée à l'école.
Je trouve ça hilarant. Je changerai la fin pour ne pas dire qu'elle prendrait sa retraite ce jour-là, mais qu'elle fera bien attention à son arrivée.
Je suis d'accord. Et ça y est, j'essaie de retarder au maximum l'échéance, mais on passe du côté qui sont pour moi les pires headcanon. George n'arrivera plus jamais à produire de Patronus après la mort de Fred. Ah, on sait que George ne s'est jamais remis de la mort de Fred. Mais les Patronus font appel à nos souvenirs les plus heureux.
Et je suis sûre que George a 1001 souvenirs minimum heureux avec Fred.
Remus mange du chocolat pour effacer la part de loup en lui, parce que le chocolat est toxique pour les chiens. Remus était secrètement amoureuse de Sirius et lui demandait régulièrement à Tonks de prendre son apparence.
Mais laissez Lupin tranquille.
Ron est un vampire.
Allez, c'est bon, je pars.
Narcissa Malfoy a trompé Lucius avec Severus Rogue.
Mais vous avez fumé quoi?
Je pense que pour préserver notre santé mentale, on va s'arrêter là.
Attends, t'as vraiment trouvé tout ça sur internet?
Oui. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour une fin d'émission. À tout à l'heure.
Vous avez une question?
Nous, on vous répond.
Sur Radio Castel.
Aujourd'hui, on parle d'un personnage emblématique qui a marqué plusieurs générations. Mario, le plombier de Nintendo. Avec plus de 40 ans de carrière, Mario est devenu bien plus qu'un simple héros de jeux vidéo. Il est une véritable icône de la pop culture.
Qui est Mario et quand est-il né?
Mario est né en 1981 dans le jeu Donkey Kong. À l'époque, il n'était qu'un personnage pixelisé en 2D et sa mission était de sauver Pauline. Il est rapidement devenu le héros de Super Mario Bros. Sur NES, avec des niveaux de plus en plus complexes et des graphismes améliorés. En 1996, la sortie de Super Mario 64 marque une révolution. Mario passe en 3D, les joueurs peuvent explorer des mondes libres et le gameplay devient beaucoup plus immersif. Aujourd'hui, sur Nintendo Switch, Mario continue d'évoluer avec des mondes ouverts dans Super Mario Odyssey et des transformations surprenantes et de nombreuses interactions avec l'environnement.
Quel est l'impact de Mario sur la culture et les médias?
Mario n'est pas seulement un personnage de jeux vidéo, il est devenu une véritable icône mondiale, reconnue même par ceux qui ne jouent jamais aux jeux vidéo. On retrouve Mario dans des films, des séries animées, des bandes dessinées, des jouets, des vêtements et même des parcs à thème, ce qui montre l'ampleur de son influence sur la pop culture. Au fil des années, il est devenu un symbole du jeu vidéo familial et universel, capable de toucher toutes les générations. Il a inspiré des millions de joueurs à travers le monde et a donné naissance à des milliers de produits dérivés. Des artistes, des créateurs de jeux et développeurs, s'inspire encore aujourd'hui de son univers et même des consolidations e-sport autour de ces jeux ont lieu. Grâce à son gameplay simple mais innovant et à ses aventures variées, Mario continue de séduire petits et grands, restant un personnage intemporel qui traverse les époques.
Quelles sont les nouveautés et les prochaines aventures de Mario ?
Nintendo continue d'innover pour garder Mario moderne, et passionnant. Le prochain grand projet est le film Mario Galaxy, prévu pour 2026, qui promet de transporter le plombier dans des aventures interstellaires inédites. Ce film offrira des mondes plus colorés, des effets visuels spectaculaires et des personnages emblématiques de la saga, tout en gardant l'humour et l'énergie qui font le succès de Mario depuis des décennies. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas au film. Nintendo continue de développer de nouveaux jeux, d'explorer des mécaniques originales et d'ajouter des personnages et objets surprenants dans ces mondes. Ces innovations permettent à Mario de rester attractif pour les joueurs d'aujourd'hui, tout en séduisant les nostalgiques des premières aventures en 2D. Entre nostalgie et modernité, Mario prouve qu'un héros simple, créé il y a plus de 40 ans, peut rester populaire et continuer à surprendre chaque génération. Mario est donc bien plus qu'un personnage de jeu vidéo, et c'est un symbole de créativité, d'innovation et de plaisir de jouer. Il a su évoluer avec la technologie, tout en conservant ce qui a fait son succès depuis le début. C'est déjà la fin de cette chronique sur Mario. J'espère qu'elle vous a donné envie de replonger dans ses aventures et de suivre ses prochaines missions, notamment au cinéma en 2026. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle chronique pleine de découvertes et de fun. Super Mario !
Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en ce lundi 19 janvier. On espère vous avoir apporté de la bonne humeur pour bien commencer. Prenez soin de vous. Et à une prochaine.
Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of my life living in the best days.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living.
lot is running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine
pour une nouvelle émission à partir de 17h.